Le Seigneur fait des grandes choses. Maintenant que nous sommes allés en Europe, j'ai pris ma femme, ma nouvelle femme. Elle venait d'un milieu américain. Son père, ses parents n'étaient pas des gens riches. Mais ils n'étaient pas vraiment pauvres non plus. Ils avaient une maison avec des tapis dans les salons. Ils avaient une auto à la porte. Ils avaient réfrigérateur. Ils avaient machine à laver. Ils avaient toutes sortes d'affaires comme ça. Alors, on se marie, on prend nos valises et on s'en va en Europe. Oh, la première chose, il fallait aller à l'Alliance française pour apprendre un petit peu le français. Puis après, nous avons atterri à Dijon, dans la moutarde jusqu'aux oreilles. Mais, arrivant à Dijon, un jour, notre premier auto que nous avons jamais possédé, c'était le surplus de l'armée américaine, une Jeep. Nous sommes allés en Europe avec $150 par mois. Et savez-vous, $150 en 1951 allait un peu plus loin qu'aujourd'hui, mais pas très très loin. Arrivant à Dijon, qu'est-ce qu'on fait? Vous arrivez dans une ville, où est-ce qu'on s'en va? On cherchait des places, il n'y avait pas de places. J'avais une adresse qu'un militaire américain m'a donnée à Dijon. Quand on n'a pas trouvé une place pour coucher le soir, on a pris la liberté d'aller chez ces gens-là pour leur demander s'ils pouvaient nous donner secours. Ah, la dame a dit, pas de problème. Elle a dit, nous avons une chambre, un garçon qui avait à peu près 18, 19 ans. Elle a dit, vous pouvez coucher dans sa chambre. Ah, c'est parfait ça. Rien de mal avec ça. Sauf que, lui, il couchait sur le lit, dans son lit, et nous, à côté de son lit. Ça, c'était notre première nuit à Dijon. Il y avait bien d'autres choses qui suivaient après. Vous savez, nous étions des missionnaires, nous en sommes encore, mais pas des bons missionnaires. Nous sommes allés en France, on ne vivait pas comme les missionnaires vivaient, pas sur le niveau des missionnaires. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de missionnaires, ni en Afrique, ni ailleurs, qui allaient faire les lessives à la rivière. Ma femme l'a fait. Nous avons arrivé à Dijon, il y avait 5000 familles sans logement. Après la guerre. Où est-ce que vous allez? On a couru partout, je vous assure, nous avons passé par des expériences, ce sera trop long pour vous conter tout ça. Finalement, nous avons abouti dans un petit village en dehors de Dijon, qui s'appelle Arc-sur-Tille, dans une pièce. Cette pièce était chambre à coucher, les salons, la cuisine, l'étude et tout ce que vous voulez. C'était bon, on avait une place pour coucher. Mais dans cette pièce, il y avait des horloges des grands-pères, plusieurs. Mais il n'y avait pas un poil. Il n'y avait rien. Il y avait une petite patente où vous mettez les charbons des bois pour faire la cuisine. Essayez de faire ça en intérieur. Vous ne vivrez pas longtemps. Alors, on s'est débrouillé comme on pouvait. On vit, il y avait de l'eau en arrière. Et encore plus loin que les puits, il y avait une petite cabane qu'on appelle ici au Canada Becos. Ça, c'était notre première année en France. Avec ça, ma femme était enceinte. Elle a pris dysenterie. Le médecin est obligé de la traiter avec opium. Je pensais de vous conter quelque chose, mais je ne pense pas que je vais le faire. Nous avons passé par des expériences qu'on ne souhaiterait à personne jamais. Pas nos pires ennemis. Avec des médecins, avec des maladies, vous n'avez pas besoin d'aller en Afrique pour ça. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis, j'étais donc ignorant. Mais comme je ne connaissais pas vraiment la coutume américaine, j'étais tellement habitué à l'Europe, pour moi, ce n'était pas grand-chose. Mais imaginez-vous, mesdames, mesdemoiselles, être amenés dans des situations semblables. Mais nous avons passé 10 ans en France, en réalité. Pendant ce temps-là, le Seigneur a fait des grandes choses et nous avons vu Dieu répondre à nos prières. Quand nous sommes partis en 1960, il y avait une église qui était là, qui était établie. Et un jeune homme qui était appelé pour être leur pasteur, qui encore aujourd'hui est là, il y a quelques années, il est venu nous visiter, son nom est Victor Rodriguez. Nous avons vu Dieu à l'œuvre. Notre premier Noël, un jeune marié, on quitte les États, on est en France, puis autour de Noël, la famille, les amis, c'est important. On était dans un petit village, ma femme et moi. Alors on s'est dit, on va essayer de fêter aussi bien qu'on peut. On a trouvé un petit arbre. On l'a décoré, on l'a mis au bord de la fenêtre. Puis ma femme a acheté un poulet. Puis on allait avoir un poulet pour Noël. Fantastique. Or, souvent, avant que nous avons trouvé ces petites chambres, on faisait un pique-nique à côté de la route avec un petit poêle. On faisait notre repas, pareil comme les bohémiens. Ça coûtait meilleur marché. Parce qu'on n'avait pas l'argent pour aller manger ailleurs. Mais cette fois-ci, on avait les poulets pour dîner. Puis quand nous sommes venus à Arc-sur-Tille, les gens venaient le soir pour écouter, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre-là. Puis ils entendaient ma femme qui tapait à la machine. Alors, tout d'un coup, tout le monde savait au village que dans cette chambre-là, il y avait des espions qui passaient toutes les nuits à faire des rapports et à écrire à la machine. Et les journées, on espionnait. On faisait des colportages. Vous demanderez à ma femme son l'expérience de faire des porte-à-porte à Arc-sur-Tille. Elle peut vous le dire. L'expérience avec les dames et les chiens. Pas grave. Mais à Noël, ce petit arbre, tout d'un coup, on s'est préparé pour avoir notre repas entre nous deux. On entendait les bruits, les personnes qui venaient, qui voulaient voir qu'est-ce qui s'est passé en intérieur et voir cet arbre de Noël. Alors, j'ai regardé ma montre et j'ai dit, venez à 2 heures. Vous allez pouvoir entrer. On va vous laisser entrer et voir l'arbre de Noël. Alors, en attendant, on essayait de manger. Ce n'était pas mangeable. Pas parce que c'était pas bon, c'était bon. Il y avait trop de personnes qui n'arrêtaient pas, qui étaient dehors constamment à la fenêtre. À 2 heures de l'après-midi, il y avait tous les villages qui étaient là, qui voulaient voir l'arbre de Noël. Alors on a ouvert les portes, tout le monde est entré, puis on était comme ça à l'intérieur. Partout, dans une pièce. Savez-vous les résultats de ça? Les résultats de ça, il y avait des conversions. La dernière fois que ma femme et moi, nous étions aux États-Unis, nous avons mangé chez le jeune homme qui a collé son nez en face de la vitre pour qu'il voulait voir l'arbre de Noël des Américains. Il était converti. Sa famille était convertie. Et pendant des années de temps, il est diacre aux États-Unis. Et surintendant de l'école du dimanche. Il aime le Seigneur, il suit le Seigneur. Sa famille. Quelquefois, j'allais à Arc-sur-Tille après que nous avons déménagé à Dijon. C'est une autre histoire. J'allais quelquefois chez eux voir cette famille-là. Et Mme Schmick la disait souvent, avant que je parte, « Ah, M. Gazig, attendez, avant que vous partez, je vais vous donner des œufs. » Alors, elle s'en va dehors, elle ramasse les œufs des poules qui se traînent dans la cour, puis elle s'en vient avec six œufs dans ses mains, comme ça, là, elle me les donne. Elle met les mêmes dans les poches. Puis j'arrive à la maison, je dis à ma femme, « J'ai des œufs pour toi. » Mais une fois, nous avons eu des réunions spéciales. J'amenais Mme Schmickla chez elle, à la maison après la réunion. Tout en coup, elle pense, c'était pas mal tard, elle dit, « M. Gazig, avant que vous partez, vous avez un invité chez vous, je vais vous donner un canard. » Elle s'en va dehors, elle court après les canards, elle prend les canards, elle lui tord le cou, puis elle me donne les canards. J'arrive à la maison, j'ai oublié les canards. On se couche, tout d'un coup, quand j'étais prêt de m'endormir, il me semblait que j'entendais quelque chose. Les canards! Je dis à ma femme, « Hey, Alice, j'ai un canard dans l'auto. » « Quoi, un canard? » Je dis, « Oui, un canard. » Il ne fallait pas laisser ces pauvres canards dans l'auto, je vais les chercher. Puis au milieu de la nuit, il était sale, ça sentait. Il n'était pas vidé, ni plené. J'ai vu chez nous que ma grand-mère, comment elle faisait ça? Elle chauffait l'eau, puis elle versait ça dessus. C'est ça que j'ai fait. Mais j'ai failli perdre connaissance. La jeunesse, un jour, nous sommes partis avec les jeunes dans l'auto. Je les ai conduits chez eux après la réunion samedi soir. Tout d'un coup, il y avait un lièvre sur le chemin. Puis le jeune en arrière, les garçons qui ont dit, « Monsieur Gazig, frappez-les, frappez-les !» Alors j'ai essayé, je les frappais. Mais après que j'ai frappé, ce lièvre écrit, « Arrêtez, arrêtez, arrêtez !» Pauvre canard, pauvre lièvre, il n'était pas complètement mort. Il court après, il les prend par les oreilles, il l'amène dans l'auto. Il y avait quatre personnes en arrière, deux filles au centre et deux gars sur les bouts. Ils ont pris les lièvres, un a pris les pattes, l'autre a pris les oreilles, ils se tiraient et chacun voulait avoir les lièvres pour les repas demain. Ils l'ont mangé. Vous avez déjà mangé des corbeaux?
Dans nos vies chrétiennes. Tout ce qui change.
On a mangé, ma famille.
Rien ne peut nous toucher. Ou encore.